de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire,
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil?
Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, 30 minutes pour parler de cinéma. Et puis aujourd'hui, une équipe augmentée, c'est un petit retour, celui de Manu. Bonjour Manu.
Bonjour.
Et donc, tu as voulu revenir nous voir pour parler d'une réalisatrice que tu apprécies.
Oui, que j'apprécie beaucoup, donc Kelly Reichardt, qui sort donc son nouveau film, Mastermind, voilà, qui sort donc le 4 février.
Et en plus, tu le prononces Reichardt.
Ah oui, c'est Reichardt, je crois.
C'est la première fois que j'entends ça.
Bon, on ne dit pas Richard Reichardt.
On ne dit pas la française. Oh, voilà. Décevant. Et puis, quand il s'agit de parler de personnes qu'on aime bien, ça se pose là aussi avec toi, Guillaume, aujourd'hui. Hein.
Et oui, je vais vous parler du retour à Silent Hill de Christophe Gans, que j'ai eu la chance d'interviewer.
Et puis, je te parlerai d'un autre film.
Oui, Rental Family.
Et toi, Sophia, un film français?
Oui, le dernier de Valérie Donzelli, À pied d'œuvre, et un documentaire, La vie après Siam, de Namir Abdel Messi.
Je vous parlerai, moi, d'un film d'animation tout à fait oubliable. Et puis, la grosse sortie du 4 février, c'est le film Marsupilami sur plus de 1000 écrans. Dernière comédie de Philippe Lachaud. Mais nous commençons avec À pied d'œuvre. Souhaitant continuer à être écrivain, un ancien photographe quitte son confort pour la pauvreté et la précarité. Mais il y a un acteur qui, lui, n'est pas précaire. C'est Bastien Bouillon, puisqu'il interprète ce personnage. Et l'acteur est vraiment partout en ce moment.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah, mais avec joie.
Écoute, Paul. Tes livres ont un vrai succès d'estime. Mais on va pas se mentir, les ventes sont décevantes. Moi, aujourd'hui, j'attends de toi ton grand roman.
À pied d'œuvre n'arrive pas de nulle part dans la filmographie de Valérie Donzelli, hein, cinéaste révélé avec La Reine des Pommes, puis consacré par La Guerre est déclarée, grand succès, critique et public en 2011. Donzelli a longtemps creusé un cinéma de l'intime, des affects, des relations mises à l'épreuve. Plus récemment, après L'amour et les forêts, drame conjugal, sombre et très écrit, elle s'était tournée vers le réel avec Rue du Conservatoire, hein, que tu avais chroniqué, me semble-t-il, Manu, un documentaire consacré aux élèves comédiens du Conservatoire de Paris, filmé au moment précis où la vocation rencontre la réalité du métier. Un film déjà traversé par une angoisse très concrète, hein, comment faire carrière dans un milieu saturé, précaire, ultra compétitif. À pied d'œuvre prolonge cette interrogation. Le film, qui est une adaptation de l'ouvrage autobiographique de Franck Courtès, a été présenté et récompensé, hein, du prix du scénario à la Mostra de Venise en 2025 et déplace le regard porté par Donzelli sur la formation vers l'après. Non plus des artistes en devenir, mais un artiste adulte, un écrivain, incarné par Bastien Bouillon, confronté à la survie économique.
Et tes enfants, ça va? Ça te dérange pas qu'ils partent si loin?
Ce n'est pas la misère, mais on commence à en avoir une vue bien dégagée.
Je suis prêt à accepter n'importe quel boulot, mais j'aurais besoin de temps à moi pour écrire.
Vous voulez un travail qui vous laisse du temps?
Donzelli s'intéresse ici à ce que signifie créer aujourd'hui, dans une France où la liberté artistique, hein, passe de plus en plus par l'auto-exploitation. La France de Macron, hein, comme on peut lire sur les réseaux. L'enchaînement de missions, la notation permanente et une forme d'ubérisation généralisée du travail. Le film se présente ainsi comme un portrait contemporain du déclassement social vu à hauteur d'artiste. Une promesse politique forte qui prétend regarder en face les conditions matérielle de la création.
Mais vous faites ça depuis longtemps?
Pas vraiment.
Ah ouais, parce que vous avez pas trop la tête à faire ça.
Gare du Nord.
Paul, qu'est-ce que tu fais dans cette voiture?
Ah, je travaille.
Non mais je rêve. Un boulot mal payé comme un esclave.
Tu sais, à notre époque, il y a des esclaves très bien payés.
On suit donc un écrivain sans grand succès, hein, Paul Marquet, interprété par Bastien Bouillon, visage très familier de nos écrans ces derniers temps, hein, de Connemara à l'affaire Bojarski, hein, encore dans les salles de cinéma. Cet écrivain décide donc de renoncer à la sécurité de son emploi stable de photographe pour embrasser la précarité volontaire, convaincu qu'elle est le seul chemin vers sa liberté créative pour pouvoir écrire son deuxième grand roman. Pour gagner sa vie, donc, il se rabat sur une application de petites missions de travail, de jobbing, où il multiplie les tâches, somme toute insignifiantes, insignifiante. Hein. Il se vend avec des étoiles, des notations, des tarifs complètement bradés. Chaque client devient un petit patron, chaque évaluation une jauge de sa dignité. Et il se fait quitter par sa femme, troque son appartement haussmannien contre un studio en sous-sol, budgétise la moindre dépense, renonce à se chauffer l'hiver, ne peut plus voir ses enfants. Bon, l'idée est là, filmer un artiste en lutte alors qu'il sombre de plus en plus dans un dépouillement économique, social et matériel quasiment absolu.
Je comprends pas pourquoi tu t'entêtes à faire ces boulots de merde.
C'est peut-être le prix de ma liberté. C'est au moment où j'ai épuisé mes économies, sans espoir immédiat de les renouveler, que j'ai pris conscience que je devenais pauvre.
Sans doute pour rester fidèle au texte autobiographique de Franck Courtès, Valérie Donzelli fait beaucoup parler son personnage. Paul Marquet, incarné donc par Bastien Bouillon, pourtant magnétique et fragile, devient le porte-voix d'un discours très très écrit, hein, une galerie de répliques solennelles adressées en voix off aux spectatrices ou à un entourage social qui ne comprend pas son fameux choix de la précarité. En exemple, avec l'explosion des statuts de travailleurs indépendants, on se dirige moins vers une société idéale d'ouvriers libres et indépendants que vers une société de serviteurs précarisés. Bon, ça a le mérite d'être très didactique, hein. Notre écrivain traverse l'extrême violence de son existence précaire comme à côté de lui-même en observateur sociologique. La comparaison avec Un poète, sorti en 2025 de Simone Messasotto, est alors éclairante pour étayer ce point. Dans le film argentin, la pauvreté n'est pas expliquée, mais viscéralement vécue. Le personnage est parfois ridicule, souvent drôle, toujours traversé par ses contradictions. Le film colle au corps, aux gestes, aux humiliations quotidiennes avec une proximité radicale et une ironie cruelle. À pied d'œuvre, au contraire, maintient une forme de dignité permanente, presque stoïcienne, hein, qui finit par distancer le protagoniste de la violence du système que dénonce le film.
Paul, t'es pas un vrai pauvre.
Pourquoi t'écrirais pas un truc qui marche ?
C'est votre métier, le bricolage ?
Complètement taré.
J'ai une bien ma vie.
Vous avez pas trop la tête à faire ça.
N'importe quoi d'autre.
Espoir, comment t'en es arrivé là ?
J'ai pas envie que tu finisses à la rue, comme un clochard.
Du moment que j'écris.
Selon moi, le problème n'est évidemment pas tant le fond que cette mise à distance avec un traitement qui reste étonnamment petit bourgeois et abstrait. On est invité à comprendre la souffrance existentielle de ce héros très propre sur lui, mais jamais vraiment à la ressentir. Pour autant, le film n'est pas sans tenue, sa sécheresse, son dépouillement, l'intégrité presque monacale du personnage dessinent les bases d'un nouveau cycle chez Donzelli, un cinéma moins sentimental, plus austère, plus frontalement social. Mais à force de préserver la hauteur morale de son artiste, le film hésite un peu à se salir les mains. Dommage.
Alors je l'ai vu, alors j'avoue que moi j'y croyais pas tellement au départ, hein, quand on voit cet homme qui choisit la précarité, et puis je me suis quand même laissé prendre. Alors t'as raison sur la distance et le discours, mais bon, comme c'est tiré d'un ouvrage qui lui-même expliquait, enfin autobiographique, voilà, l'auteur analysait sa propre situation, donc voilà, elle rend compte de ça aussi, enfin de ce point de vue de ce qu'il traverse, voilà. Mais on apprend quand même beaucoup de choses sur l'ubérisation effectivement, et il y a quelque chose qui finalement vire au grotesque, mais voilà. Donc ce film de Valérie Donzelli est en salle depuis le 4 février. Il y a un autre film qui est en salle le 4 février, c'est Le Marsupilami, qui est donc de nouveau sur les écrans, et ce n'est plus Alain Chabat à la réalisation, mais Philippe Lachaud, et ça change tout.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
This is Cinerama.
C'est vrai, oui ou non?
Tu vas partir en Amérique du Sud pour faire une croisière.
Y a un piège?
Et me ramener un colis en France. Il y a moins de contrôle en bateau qu'en avion.
Il y avait un piège.
Le Marsupilami, qui reste une BD très appréciée, hein, des jeunes générations, n'a été adapté que deux fois sur grand écran. Rien à voir avec Astérix. Alors la première fois, c'était en 2012 avec Sur la piste du Marsupilami, une version qui a obtenu un succès public avec 4 millions d'entrées, mais qui a déçu nombre de critiques. De mon côté, j'avais trouvé le film relativement fidèle à l'esprit de Franquin, tout en ayant le souhait d'inscrire le long métrage dans son époque avec un dictateur Saint-Jean, Céline Dion notamment. Autre ambiance avec la version du très curieux animal mise en scène par Philippe Lachaud. Il n'a pas le même style ni le même humour que Chabat, et ça se voit.
Il y a trois règles. Règle numéro 1, ne jamais ouvrir le colis.
C'est quoi ça? Le Marsupilami.
Alors Lachaud, c'est un admirateur de la comédie américaine, hein, incarné par les frères Farrelly notamment, et à mesure qu'il sort ses films, il avance avec une troupe bien constituée dans laquelle on retrouve toujours Tarek Boudali, Julien Arruti et Élodie Fontan, et parfois Didier Bourdon ou Gérard Jugnot. Et après Nicky Larson en 2018, eh bien, il s'attaque au Marsupilami, une BD. Il en fait presque une figure centrale, hein. Tout commence quand on demande à David donc d'emmener son ex-femme et son enfant sur un bateau de croisière en Amérique du Sud pour ramener un mystérieux colu, et nous spectateurs savons que c'est un œuf de Marsupilami.
Règle numéro 2, en prendre le plus grand soin.
Je l'ai eu!
Règle numéro 3. Être le plus discret possible.
Hola, ¿qué tal?
Mais rien ne se passe donc comme prévu quand la créature sort de l'œuf. Pour faire bonne figure, David choisit d'offrir la bestiole à son fils qui lui est ravi. Mais le marsupilami attire non seulement les convoitises de méchants personnages, mais aussi les bons sentiments. Jamel Debbouze, qui reprend son rôle de Pablito Camarón, qu'il avait donc dans le film de Chabat, veut rendre l'animal à la forêt palombière.
Le marsupilami est extrêmement convoité.
On est à la recherche d'un animal. Jaune, à taches noires.
Si quelqu'un a des infos sur cet animal, qu'il lève la main.
Eh oui, il y a des gifles. Contrairement au film de Chabat, assez sensible à l'univers absurde de Franquin et qui reposait sur un buddy movie avec Chabat d'un côté et Debbouze de l'autre, le marsupilami de Philippe Lachaud est troussé bien différemment. Le gag arrive au rythme d'une mitraillette. Le rythme du film est assez soutenu. Ceux qui aiment les temps morts passeront leur tour. L'humour qui est déployé par Lachaud est plutôt convaincant, avec des gags solides entre la fameuse comédie américaine des Farrelly, avec des gags qui touchent les corps, c'est-à-dire il y a des nions, là on l'entendait, il y avait une claque, il y a de la saleté ou encore une transformation quand le douanier interprété par Alban Ivanov à le rythme d'un paresseux. Le burlesque s'impose, parfois en dessous de la ceinture, même si je le note que Lachaud a cette fois-ci fait un effort pour éliminer ce qui fait aussi son humour, soit des gags sexistes. Mais l'une des grandes réussites du film dans la longueur est un gag avec un type qui faisait ses besoins tranquilles dans une caravane. Un gag que n'aurait pas renié Louis de Funès avec les bonnes sœurs. L'avantage pour Lachaud de rester au maximum au-dessus de la ceinture, c'est qu'il s'offre un public familial, précisément celui du marsupilami. On rit vraiment, mais vraiment, j'ai pu mesurer aux applaudissements nourris que la salle comble avait apprécié ce qu'elle avait vu. Voilà, marsupilami, pour ceux qui aiment Lachaud, évidemment, ils seront convaincus, et puis les autres, eh bien, ils peuvent jeter un œil. C'est en salle depuis le 4 février. Un retour glaçant dans l'univers culte du jeu vidéo entre horreur psychologique et atmosphère cauchemardesque. Nous parlons de Retour à Silent Hill.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas ?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre, moi.
20 ans après sa première adaptation de Silent Hill, qui était une relecture du premier jeu matiné d'autres obsessions complémentaires du réalisateur comme l'univers gothico-SM de Clive Barker, Christophe Gans s'attaque au plus gros morceau de la saga vidéoludique, car Silent Hill 2 est littéralement un chef-d'œuvre vidéoludique et chef-d'œuvre artistique tout court, déjà très inspiré par le cinéma et des films comme L'Échelle de Jacob. Alors mettant complètement de côté le Silent Hill Révélation 3D de 2012, signé M.J. Bassett, qui était une adaptation de Silent Hill 3, mais largement conspué, Gans opère donc un retour à Silent Hill comme un retour à tout ce qu'il aime, mais avec le défi de ne pas refaire le premier et très réussi film. Ça tombe bien, Silent Hill 2 était déjà une variation plus qu'une suite de Silent Hill. Car ce qui fait plaisir, c'est que Retour à Silent Hill est autant une adaptation fidèle qu'un film d'auteur complet. Qui aime les films de Gans y retrouvera son romantisme total et assumé, sa filiation avec pléthore d'auteurs et thématiques classiques bien à propos et même des scènes qui font écho à son premier film, lui aussi grandement tributaire à Edgar Allan Poe, le segment The Drone de Necronomicon. Alors la mise en scène aérienne d'une maîtrise impressionnante est exemplaire car elle sait exister au-delà de l'aspect vidéoludique ici absent et se fait le relais bienvenu de l'histoire bien au-delà des mots qui deviennent inutiles pour James Sunderland, l'anti-héros qui cherche sa femme morte dans le cauchemar éveillé d'une ville fantôme métaphorique à la manière de Lucio Fulci dans L'Au-delà. Alors beaucoup râleront des choix faits, mais condenser 20 heures de gameplay en moins de 2 heures de film est une gageure, et rares sont les réalisateurs comme Gans à avoir poli tous ces rouages d'un amour aussi éclatant. Alors on l'écoute en parler lui-même, et le moins qu'on puisse dire, c'est que le tri fut difficile face à la logorée passionnante du bonhomme.
Retour à Silent Hill semble plutôt un nouvel épisode d'une saga Silent Hill, mais quand on le regarde, je pense que c'est un prototype aussi. Je pense que le film, en fait, n'a pas grand-chose à voir avec le premier film. Mais déjà, le jeu lui-même n'a pas grand-chose à voir avec la saga Silent Hill. Le jeu Silent Hill 2, que j'adapte avec le retour à Silent Hill, est un jeu qui est en fait ce qu'on appelle un stand-alone, c'est-à-dire un film à part. C'est une histoire qui commence et se boucle, etc. Et qui parfois même contredit un petit peu les règles de l'univers de Silent Hill, telles que du moins elles avaient été imposées par le premier jeu. Puisque dans le premier jeu, on comprenait que Silent Hill, c'était une ville qui existait sous différentes formes, dans des dimensions parallèles, mais c'était donné comme tel. Alors que dans le deuxième, il y a une très grosse nuance qui est que peut-être les mutations que subit la ville, c'est-à-dire ces transformations, sont en fait le fruit de l'esprit très fatigué, on va dire, du héros principal. Donc la dimension subjective qui était absente du premier fait en fait l'intérêt du deuxième opus, et qui est donc celui que j'ai adapté ici.
Il s'est passé quelque chose de grave. Quelque chose de très grave.
Tu ne pourras pas échapper aux ténèbres.
Je t'en supplie, ne va pas plus loin.
Je ne voulais pas me répéter, et je pensais que je ne me répéterais pas, tout en faisant un nouveau Silent Hill, spécifiquement parce que l'histoire du deuxième jeu est tellement étrange et tellement folle, et elle procède d'une exploration en fait de la psyché du personnage principal dans une espèce de spirale hallucinatoire qui pour certains pourrait rappeler un peu certaines expérimentations de David Lynch par exemple. Ça c'était quelque chose auquel j'avais envie de me frotter, plus que de repartir à Silent Hill.
James, tellement de temps est passé. Il est arrivé quelque chose. Je te supplie de revenir. Reviens chez nous. Je t'aime, Mary.
Le retour à Silent Hill du titre, c'est vrai, peut se lire à la fois comme le retour de James Sunderland, donc le héros du film, qui retourne à Silent Hill pour retrouver en fait sa femme, mais ça peut se lire aussi effectivement comme mon retour à Silent Hill. Mais ça ne l'est pas vraiment. C'est l'intérêt du jeu Silent Hill, c'est en fait son angle expérimental. Moi, c'est ce que personnellement je trouve étonnant. Et le fait que le deuxième Silent Hill se prête à peu près à toutes les interprétations possibles et imaginables. C'est-à-dire que le jeu est hyper cryptique, en fait. Et sans doute, d'ailleurs, le film l'est peut-être sans doute moins que l'est le jeu. Le jeu, en fait, s'offre à toutes les interprétations possibles et imaginables, dans le cadre, évidemment, de cette histoire qui est, à mon avis, une réadaptation du mythe d'Orphée et d'Eurydice. Orphée étant dans la mythologie gréco-latine, un musicien, un chanteur qui, à un moment donné, est obligé de partir, de descendre en enfer pour en ramener sa femme morte.
Il y a quelqu'un ? Est-ce que quelqu'un m'entend ?
T'es pas d'ici, n'est-ce pas ?
Non, moi, je suis à la recherche de quelqu'un.
Tout le monde est malade à Silent Hill. Tu n'en as jamais entendu parler ?
À partir du moment où j'identifie ce qui est le mythe universel à l'œuvre à l'intérieur de l'histoire, c'est-à-dire le mythe d'Orphée, à partir de là, pour moi, je pense que plein de gens, que ce soit ceux qui ont joué au jeu comme ceux qui n'y ont pas joué, vont s'apercevoir que c'est une histoire quelque part qu'ils connaissent. Ça fait partie des grands mythes, en fait. C'est comme La Belle et la Bête. Je veux dire, c'est des histoires immortelles, voilà, qui sont des schémas, en fait, qui sont des schémas qu'on retrouve dans des arts différents, qu'on retrouve dans la peinture, qu'on retrouve dans l'opéra, qu'on retrouve dans la bande dessinée, qu'on retrouve maintenant dans les jeux vidéo. C'est leur universalité et le fait que c'est des légendes qui sont immémoriales qui fait que, à mon avis, on peut y aller en se disant que, bon, évidemment, il y aura des gens qui ne connaissent pas le jeu, mais qui vont quand même s'y retrouver un peu, quand même.
Il faut que tu la retrouves avant qu'il soit trop tard.
Konami m'a dit, est-ce que vous pourriez pas faire une fin moins déprimante ? Parce que, il faut savoir, c'est que j'ai dans mon film une des quatre fins qui existent dans le jeu, parce qu'il y a quatre fins différentes, et c'est sans doute la plus déprimante que j'ai portée à l'écran, parce que en fait c'est celle sur laquelle je suis tombé la première fois que j'ai joué au jeu. Donc les gens de Konami, ils ont lu mon script et ils ont vu que ça finissait comme ça. Donc ils m'ont dit, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, si vous avez envie évidemment, nous faire quelque chose d'un peu moins déprimant. Donc sur le coup j'ai été choqué parce que je me suis dit, mais attends, c'est carrément les développeurs qui me demandent de trahir leur travail. Puis après je me suis dit, non, en fait on va être plus malin que ça, on va se mettre dans la peau du personnage et on va se demander qu'est-ce qui pourrait être le summum du romantisme chez ce personnage. Parce que c'est quand même l'histoire d'un type qui est fou d'amour au point de descendre en enfer, dans son propre enfer qu'il a lui-même créé en plus. Donc j'ai réfléchi et puis j'ai trouvé quelque chose, cet épilogue, qui est intéressant parce que finalement on se rend compte que s'il veut retrouver un jour son épouse, il faut qu'il assume sa propre démence, quoi. Et ça c'est quelque chose que je trouve très romantique et très lié à l'idée du romantisme noir tel que l'a développé Edgar Allan Poe dans ses contes évidemment.
C'était Christophe Gans que tu as rencontré, Guillaume, pour le film Retour à Silent Hill. Dans les années 70, un père de famille planifie un vol d'œuvres d'art qui tourne vite à la fuite et à la désillusion. Nous parlons de The Mastermind.
Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux ?
Cinérama.
On est comme on est.
Mastermind marque une rupture dans le cinéma précieux de Kelly Reichardt, légèrement amorcé dans son précédent film, Showing Up, sorti en 2022, portrait d'une artiste exigeante. Alors si le personnage incarné par Michelle Williams pouvait agacer par sa dimension un peu autocentrée, elle n'en restait pas moins touchante et d'une intégrité intellectuelle et artistique sans faille. La tendresse de la cinéaste envers ses personnages a toujours été soulignée, point fort d'un cinéma épuré, déclinant les portraits de perdants magnifiques, de marginaux en rupture de la société. Alors non par révolte, parce qu'ils sont décalés, alors comme dans Wendy et Lucy, et puis All Joy, peut-être son chef-d'œuvre. Avec son 9e long métrage, la démarche de la cinéaste s'avère plus âpre, ce qui peut expliquer en partie la réception un peu tiède au dernier festival de Cannes. Alors Mastermind n'est pas un film aimable, traçant un horizon funèbre dans lequel son anti-héros ne cesse de faire les mauvais choix, de s'enfoncer dans une médiocrité dont il est le seul responsable. Alors ce drôle de zèbre a pour nom Mooney, un père de famille en quête de renouveau, insatisfait de sa situation sociale, il est charpentier au chômage, avec deux complices, alors aussi peu doués que lui et encore plus bêtes, il élabore un plan pour voler des tableaux de l'artiste Albert Dove dans un musée local. Évidemment, rien ne se passe comme prévu, à commencer par le fait que l'un des voleurs va utiliser une arme à feu. L'amateuriste de Mooney, pourtant présenté comme le cerveau de l'opération, le contraint à entamer une cavale sans retour. La force du film tient dans son portrait sans concession de son personnage central, individu pusillanime et sans envergure, puisqu'il n'y a jamais de la part de Reichardt de mépris ou de surplomb dans son regard. Alors pourtant, Mooney est un spécimen de loser comme on en a peu vu sur un écran. Non seulement chacune de ses décisions l'enfonce un peu plus loin dans la veulerie et la lâcheté, mais en plus, il n'a strictement aucune excuse morale et sociale. Il n'incarne pas le pauvre type à qui la vie n'a pas fait de cadeau. Ses parents sont riches, son père est d'ailleurs juge. Sa femme, qui a dû être compréhensif pendant très longtemps. Elle est plus dépitée qu'en colère et puis ses amis ne savent plus comment le regarder dans les yeux. Reichardt prend le contre-pied d'un certain cinéma qui s'en prend au système tout en exonérant les individus. Alors curieusement, car on ne l'attendait pas forcément sur ce terrain, elle décrit le parcours chaotique d'un petit délinquant totalement responsable de ses actes qui ne peut s'en vouloir qu'à lui-même. En cela, The Mastermind est une œuvre existentielle qui rejoint un peu le cinéma des frères Coen et particulièrement celui de Inside Llewyn Davis, avec qui il partage énormément de points communs. À la différence près que dans le film des Frangins, le Foxinger a quand même un peu de talent, voire un certain talent. Alors Mooney, lui, n'a rien, dénué du moindre savoir-faire, du moins en tant que voleur. Kelly Reichardt parvient pourtant, non à racheter le personnage, mais à l'humaniser. Cette succession absurde d'échecs, d'actes foireux, a quelque chose de suicidaire dans sa démarche, qui finit par installer une tristesse prégnante dans cette odyssée de la médiocrité. En situant donc son récit au début des années 70, la cinéaste revisite aussi tout un pan d'un certain cinéma de la désillusion post-68, celui des films de Jerry Schwartzberg, Sidney Lumet ou Arthur Penn. Sa constitution n'a rien de luxuriante et clinquante, sans doute lié au fait que le budget est assez faible, mais aussi à la vision du cinéma d'une réalisatrice. Elle a rattaché aux détails, à une forme de minimalisme en voie de disparition, y compris dans les films indépendants américains. Le film baigne dans une atmosphère un peu nonchalante, à l'image du braquage mis en scène avec une étonnante désinvolture, alors raccord avec la nullité du plan d'exécution de nos trois lascars, incapables de s'en tenir à des consignes précises. En ce sens, on assiste à l'anti-film de casse, marqué par une exécution virtuose avec une rythmique millimétrée. Bref, cette désinvolture n'a rien à voir avec une démission ou une absence de cinéma. Alors la beauté du film tient à la durée de ses plans, à son montage qui laisse la poisse contaminer le récit de ce magnifique voyage au bout de la nuit, alors porté par l'exceptionnelle interprétation de Josh O'Connor, et puis la partition séduisante de Rob Mazurek, dont on a entendu un petit extrait au début. C'est un trompettiste avant-gardiste, membre du Chicago Duo Underground, apparaissant régulièrement d'ailleurs aux côtés de groupes comme Tortoise ou The Sea and the Cake. Un très grand film sur, sur l'échec. Dirais.
The Mastermind est en salle depuis le 4 février. Un film sur le business des fausses familles au Japon, entre solitude et émotion, nous parlons de Rental Family.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
On connaît bien le Japon comme terre où les Occidentaux viennent s'oublier, hein, épancher leur vague à l'âme et essayer de retrouver un sens à leur vie. La distance et le mode de vie très différent permet à la fois un renouveau, hein, mais aussi de ressentir encore plus fortement ce vide intérieur à comprendre et à combler. Alors si au premier abord, Rental Family ressemble beaucoup par exemple à Lost in Translation de Sofia Coppola, il a comme originalité de donner cette fois-ci l'opportunité à un réalisateur japonais de prendre les commandes du récit balisé, hein, d'un Américain perdu en quête de renaissance existentielle. Et en l'occurrence, c'est ici une réalisatrice, hein, puisque c'est Mitsuyo Miyazaki, hein, crédité ici sous le pseudonyme d'Ikari, qui a la charge de nous éclairer sur un jour nouveau, hein, ou de nous montrer que ce genre de mélodrame est trop codifié pour arriver à innover entre deux élans de mélancolie du quotidien. Un acteur américain habitant au Japon depuis presque 10 ans et dont le haut fait d'armes est une publicité pour du dentifrice, hein, décroche un contrat pour le moins insolite, celui de jouer le rôle de proche de substitution pour de parfaits inconnus, hein, en travaillant pour une agence de famille à louer. Alors en s'immisçant dans l'intimité de ses clients, bah, il commence à tisser d'authentiques relations qui brouillent peu à peu les frontières entre son travail et la réalité. Et ce n'est qu'une fois confronté, bah, aux complexités morales de sa mission qu'il va redécouvrir progressivement un but à sa vie et commencer à arpenter le chemin vers la sérénité. Alors autant le dire, si Rental Family est tout à fait charmant, hein, il n'est sauvé de son aspect générique à l'extrême que par la présence solaire de Brendan Fraser, hein, véritable aimant à sympathie, hein, et qui sait toujours se déjouer, bah, de mise en scène convenue. Alors celle d'Ikari, hein, déçoit, car peut-être par pudeur ou volonté de ne pas s'aliéner le marché mondial, hein, elle ne révèle rien de ce que l'on ne connaissait déjà de la société japonaise, sa complexité et ses travers conservant leur mystère, et n'explose pas, hein, cette métaphore de l'acteur à louer qui est avant tout une âme en peine vide de contenu. Alors Wes Fraser, donc, hein, au physique qui détonne car dépassant tout le monde de deux têtes, véritable personnage lunaire de Jacques Tati dont le sourire illumine tous les endroits dans lesquels il entre, et sa confrontation truculente avec Akira Emoto. Ben, c'est déjà ça.
Rental Family est en salle depuis le 4 février. Allez, nous parlons très vite de la vie après Siam.
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Siam n'est plus là et pourtant, elle ne cesse d'apparaître. Dans ce documentaire de Namir Abdelmessi, présenté à la CID à Cannes en 2025, la caméra devient une manière de tenir parole et de tenir vivant ce qui n'est plus. Namir Abdelmessi avait déjà placé sa mère Siam au cœur de son cinéma, hein, dans La Vierge, les Coptes et moi, un documentaire de 2011, où Siam était presque co-autrice de cette enquête sur les apparitions de la Vierge dans leur communauté chrétienne en Égypte. Et ce nouveau film part aussi d'une promesse intime. Namir et Siam s'étaient jurés d'en refaire un ensemble, mais la mort est venue casser ce pacte. À travers une construction en écho et en reprise de cadre, le film oppose des images d'avant, Siam vivante, souriante, parlant face caméra, à des images d'après. La chaise vide, le même angle de vue, le même cadre, et parfois son père, Wagi, assis là où elle était. C'est un dispositif simple et bouleversant qui permet de mettre l'absence en mouvement et de faire émerger le père de l'ombre de son épouse. Au-delà du deuil, ce documentaire est aussi une enquête intime sur une histoire familiale éclatée entre la France et l'Égypte. Namir découvre des fragments de sa propre vie et des éléments sur la vie de ses parents, leur histoire d'amour dans le Caire de Nasser, leurs exils, leurs rêves laissés de côté. Il apprend par exemple que son père a eu un poste important à la Maison du cinéma en Égypte, un lien avec le 7e art qu'il ignorait et qui résonne avec son propre désir de cinéma, comme si les histoires circulaient en silence, hein, d'une génération à l'autre. Et comme le cinéma se fait ainsi compagnon de route, hein, il y a dans ce documentaire ce geste magnifique qui consiste à utiliser des extraits de mélodrames égyptiens, l'œuvre de Youssef Chahine notamment, dont Namir intègre des extraits pour raconter métaphoriquement la vie de sa mère. Elle qui rêvait d'incarner ses héroïnes tragiques, hein, devient enfin un personnage de cinéma. Pas une femme malade et mourante, mais une figure romanesque, jeune, belle et digne. La vie après Siam n'est donc pas un simple film de deuil, œuvre tombeau, mais un collage ingénieux d'archives familiales et d'extraits qui dessine avec sensibilité et humour la quête d'un fils pour comprendre d'où il vient, ce qu'il a hérité et comment le cinéma peut être une manière de faire exister ceux qui manquent. Un documentaire tendu vers la mémoire, l'amour et la transmission.
Merci Sophia.
Je vous trouve si nerveux, quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
De vous revoir.
De vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
La semaine prochaine, tu auras vu un film avec Sophie Marceau.
Tout à fait, LOL 2.0 hein, de Lisa Azuelos.
Et puis toi, Guillaume, deux films.
Oui, moi je vais parler du génial Aucun autre choix de Park Chan-wook et un documentaire It's Never Over, Jeff Buckley.
Et puis je vous parlerai, moi, des Dimanches et puis du dernier Sam Raimi. À la semaine prochaine.